Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Vous avez peut-être vu Le pianiste de Roman Polanski. L'histoire d'un jeune pianiste polonais pendant la guerre, enfermé dans le ghetto de Varsovie, dont toute la famille est déportée, et qui, lui, parvient à se cacher jusqu'à la fin du conflit. Eh bien, voici l'histoire vraie du pianiste qui a inspiré ce film, l'histoire de Vladislav Spielmann, que je tire directement du livre qu'il a écrit juste après la guerre, édité en France par Robert Laffont et que vous trouverez désormais chez Pocket. Un récit en deux épisodes que je débrieferai tout à l'heure avec l'historien Jean-Yves Potel, qui est un spécialiste de l'Europe centrale et de la Shoah. Voici donc le premier épisode. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je m'appelle Vladislav Spielmann. À l'été 1939, j'ai 18 ans et je suis pianiste à la radio polonaise à Varsovie. Parfois soliste, je donne des récitals en direct, ou accompagnateur, j'accompagne au piano d'autres musiciens ou des chanteurs. À 18 ans, bien sûr, j'habite encore chez mes parents, avec mes sœurs et mon frère, Rusliska. Fin août 1939, un matin, la veille je suis rentré tard, je n'ai aucune intention de me lever tôt. Je suis réveillé par des bruits. Je regarde mon réveil, 6 heures. Je me dis, ça doit être des exercices militaires. Et comme après quelques minutes, les grondements se taisent, je suis tenté de me rendormir. Mais vers 8 heures, la porte de ma chambre s'ouvre. Et ma mère apparaît habillée comme si elle allait sortir, mais plus pâle que d'habitude.
« Qu'est-ce que tu fais encore au lit ? Debout, Vladislav ? C'est la guerre, Vladislav, la guerre a éclaté !»
Alors je décide d'aller sans tarder au siège de la radio. J'y retrouverai mes amis et j'aurai les dernières nouvelles. Dehors, de grandes affiches ont déjà été collées un peu partout. L'appel à la nation du président. Il annonce que les Allemands ont déclenché les hostilités. Et je vois la propriétaire de l'épicerie, qui est proche de notre immeuble, en train de coller des bandes de papier sur ses vitres, avec l'espoir sans doute de les empêcher de voler en éclats avec les bombardements qui arrivent.
Édition spéciale ! Édition spéciale ! La Pologne attaquée par l'Allemagne ! Édition spéciale !
Mais il n'y a pas de panique. Les gens se demandent juste, et maintenant, quoi ? Ils sont étonnés. C'est donc comme ça que débute une guerre. J'ai fait la moitié du chemin vers la radio, quand la sirène se déclenche.
Ceci est une alerte, destinée aux habitants de Varsovie. Soyez vigilants, les Allemands sont maintenant en approche.
Quand j'arrive à la radio, où je travaille, on vient d'interrompre une émission pour diffuser un bulletin du front. Et un producteur qui vient de recevoir sa feuille de route parade dans son uniforme. À la porte du studio, un vieux pianiste qui travaille lui aussi pour la radio m'attrape par le bras. Il a l'air désorienté, abasourdi.
Ah, Vladislav, on ne m'a même pas dit si j'allais travailler aujourd'hui.
Vers midi, on sort manger en morceaux dans un restaurant près du studio. Les rues ont repris leur apparence, presque normale. Les magasins sont ouverts. Il n'y a pas de queue. Le maire a promis qu'il était inutile de stocker des vivres. Et les colporteurs vendent un jouet sur le trottoir qui fait fureur. De prime abord, c'est un cochon, mais en le pliant d'une autre façon, on obtient la tête d'Hitler.
Dispose désormais d'un allié puissant. La Grande-Bretagne vient d'annoncer qu'elle entrait en guerre contre l'Allemagne.
Et 4 heures plus tard, la radio annonce que c'est la France qui entre en guerre contre l'Allemagne. Mais notre joie n'est que de courte durée. Les jours passent et les bulletins du front sont de plus en plus alarmants. Et le matin du 7 septembre, juste avant l'aube, Nous sommes réveillés par des coups insistants à la porte. Un voisin. Vous n'êtes pas au courant? Les Allemands marchent sur Varsovie. Le gouvernement a dû évacuer. Ils ont demandé que les hommes valides quittent la ville pour se regrouper de l'autre côté de la Vistule. Là-bas, ils veulent installer une nouvelle ligne de défense. Ben, moi j'y vais, quoi. D'abord, je ne veux pas le croire. Alors je vais voir chez d'autres voisins. Beaucoup d'appartements sont déjà fermés. Et dans d'autres, des femmes en pleurs sont en train de préparer les paquetages. Et moi, je prends rapidement ma décision. Je vais rester. Je vais rester à Varsovie. Quitter Varsovie ne servira à rien. Si la mort m'attend, je mourrai plus vite chez moi. Et mes parents ont pris la même décision. Quoi qu'il puisse nous arriver, il vaut mieux l'endurer ensemble. Le lendemain soir, à 8 heures, un obus allemand touche la Syrie en face de notre immeuble. Les premières vitres à voler en éclats sont celles de l'épicerie en bas de chez moi. Les bandelettes de papier sur les vitres n'auront servi à rien. Et dans les jours qui suivent, les tirs d'artillerie laissent place aux raids aériens. Il ne se passe pas une heure sans qu'on voit la silhouette d'un bombardier dans le ciel. Et là, il faut se précipiter aux abris. Et là, c'est la roulette russe. Parce que si l'immeuble sous lequel vous êtes caché est atteint, c'est la mort assurée. Les ambulances n'arrêtent plus de sillonner les rues. Elles sont chargées de cadavres et de blessés. Le commandant en chef a demandé aux habitants de Varsovie de creuser des tranchées autour de la ville pour empêcher les chars allemands d'avancer. Chez moi, on se porte tous volontaires, sauf ma mère, bien sûr. Et donc on se retrouve à piocher, sous la menace permanente des bombes. Au bout de deux jours, à creuser comme ça, j'apprends que la radio a repris ses émissions. Et je me dis que je serais plus utile en studio, non, hein, que dans une tranchée. Et aussitôt, je recommence à jouer, aussi bien en soliste qu'en accompagnateur. Mais à Varsovie, les conditions se dégradent rapidement. L'artillerie allemande a repris son pilonnage. Beaucoup d'immeubles ont des trous béants dans les façades. Et la nuit, les incendies teintent le ciel en rouge. Les vivres commencent à manquer. Le maire a commis une erreur en nous dissuadant de faire des réserves. Le 20 septembre, nous quittons notre appartement de la rue Sliska au troisième étage, trop exposé, et on va s'installer chez des amis qui vivent au rez-de-chaussée, rue Plonska. Et on n'est pas les premiers à suivre ce raisonnement, l'appartement des amis est bondé. On doit dormir à même le sol. Et me rendre à la radio, le matin, devient chaque jour plus difficile. Les cadavres des morts et des chevaux encombrent les rues. Des quartiers entiers sont en flammes. Le 23 septembre, je joue pour la dernière fois devant un micro de la radio. Un récital Chopin. Et pendant tout le temps où je joue, les obus explosent près du studio. J'arrive à peine à entendre mon piano. Le même jour, à 3h15 de l'après-midi, la radio est en train de diffuser le concerto de Rachmaninov. Et une bombe tombe sur le transformateur électrique, la radio est réduite au silence. Et puis arrivent les terribles journées du 25 et du 26 septembre. Le grondement des canons, le sifflement des avions en piqué, et l'air chargé de fumée, de poussière, de plâtre, de briques qui s'infiltre partout et qui vous prend à la gorge, dans les appartements et jusque dans les caves. Et dans la chambre où je dors, par terre chez mes amis, juste à côté de moi, quelqu'un est tué par un éclat d'obus. Et après, on passe un jour et deux nuits à 10 dans le cabinet de toilette. 10. Quelques temps plus tard, on essaiera de le refaire. On ne rentrera pas à plus de 8. C'est la force de la peur panique de la mort. le mercredi 27 septembre, Varsovie capitule. Et il me faut 2 jours pour oser m'aventurer dehors. La ville n'existe plus. À chaque carrefour, il faut contourner des barricades de trams renversées, au milieu des cadavres en décomposition. Les gens sont tellement affamés par le blocus qu'ils se ruent sur les chevaux morts. Et là, je vois arriver une motocyclette du pont sur la Vistule. 2 soldats, vêtus de l'uniforme vert. Les premiers soldats allemands à entrer dans la ville. Et quelques jours plus tard, les murs de Varsovie se couvrent d'affiches. C'est une proclamation du commandement nazi. Elle promet le retour à une existence normale, sous la protection du Reich. Les bombardements étant terminés, on retourne chez nous, rue Sliskin. Hormis les vitres, l'appartement est intact. Mais les bombardements ont fait 20 000 morts. Dont des amis, hein. C'est épouvantable. Mais rien ne peut entamer le plaisir animal que nous avons d'être en vie. Mon père, qui est violoniste, est le premier à se remettre à la musique. Entre-temps, les nazis se sont lancés dans des rafles raciales en ville. Des voitures banalisées sillonnent les rues. Et quand un juif est en vue, elle s'arrête.
Toi, viens !
Pour l'instant, ils se contentent de gifles et de tabassage. Les premiers décrets ont commencé à être placardés sur les murs. Toute personne surprise en train d'acheter ou de vendre du pain à un prix supérieur au prix habituel sera abattue sur le champ. Alors nous renonçons à manger du pain et on se rabat sur les pommes de terre. Les lois s'appliquant aux Juifs font aussi leur apparition. Une famille juive n'a pas le droit de détenir plus de 2000 zlotys chez elle. Et les Juifs doivent remettre leurs biens immobiliers aux Allemands. Nous décidons de cacher notre modeste richesse, c'est-à-dire la chaîne et la montre en or de mon père, ainsi que 5000 zlotys. Et il y a débat sur la cachette. Mon père tient une idée de la précédente guerre.
Il faut évider le pied de la table de la salle à manger.
Ah ouais?
Et s'ils l'emportent avec eux, la table? Sottise! Qui voudrait d'une table pareille?
On a finalement mis la montre sous la commode, la chaîne dans le violon, et l'argent dans la fissure près de la fenêtre. Maintenant, ils veulent que les hommes juifs s'inclinent devant le moindre soldat allemand quand ils le croisent. Ça nous met dans une rage, mon frère et moi. Alors, on fait de longs détours pour ne pas tomber sur un Allemand. Et quand on en croise un, hop, on tourne la tête. Et maintenant, l'accès des trains est interdit aux Juifs. Et les tickets de tram sont 4 fois plus chers que ceux des Ariens. Les premières rumeurs de construction d'un ghetto se mettent à circuler. Fin novembre, un soir, mon père, mon frère Henrik et moi sommes chez des amis, et soudain je regarde ma montre, et je m'aperçois que l'heure du couvre-feu est proche. Mais bon, normalement, un quart d'heure de retard n'est pas un crime majeur. On prend nos manteaux, on sort dans la nuit noire, il pleut, on marche en longeant les façades, et rue Zielna, une patrouille surgit.
« Vous êtes juif ?»
Il n'attend pas notre réponse, on se retrouve plaqué contre le mur. Ils déverrouillent le cran de sûreté de leur fusil. Alors, c'est comme ça que nous allons mourir? Mon père se met à genoux.
Je vous en supplie, épargnez-nous.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Nous sommes musiciens.
Ah, vous avez de la chance, hein? Moi aussi, je suis musicien. Allez, déguerpissez!
Dans la seconde moitié du mois de novembre, notre statut de paria est proclamé aux yeux de tous. Nous, les Juifs, avons jusqu'au 5 décembre pour nous équiper d'un brassard blanc avec une étoile de David. Nous voilà donc replongés en plein Moyen-Âge. Au début, du coup, on ne sort plus. Et quand on est obligé, on marche en essayant de se fondre dans le paysage, les yeux au sol, accablés, accablés de honte, de peur. C'est l'hiver maintenant. Il gèle sans discontinuer. Et là, arrivent à Varsovie des centaines de juifs déportés de l'ouest du pays, entassés dans des wagons à bestiaux. Ils sont là, debout, dévorés par les engelures, au milieu des cadavres de ceux qui n'ont pas tenu, la moitié au moins. En septembre, des panneaux apparaissent à l'entrée des rues, dont la nôtre. Ces rues sont contaminées par le typhus, évitez-les. Désormais, les Juifs ont un quartier séparé où, disent-ils, nous pourrons librement pratiquer nos coutumes. Et si cette zone devra être entourée de murs, c'est uniquement pour des précautions hygiéniques. Et le 15 novembre, au bout de ma rue, j'aperçois une palissade en bois toute neuve, les portes du ghetto viennent de se refermer sur nous. Ce soir-là, je suis sorti au bout de la rue Siena et je suis tombé sur un ami de mon père.
Alors, qu'en penses-tu de tout ça, Vladislav ? Ce que j'en pense ? C'est qu'ils veulent notre mort à tous. Mais non, voyons pas d'inquiétude. Tu verras, ils nous laisseront sortir très bientôt. Attends que les Américains l'apprennent, qu'on est enfermés.
En attendant, la vie dans le ghetto est d'autant plus atroce qu'elle garde des apparences de liberté. Quand on descend dans la rue, on peut avoir l'impression de se retrouver au milieu d'une ville comme les autres. Mais toutes les rues finissent contre des murs. Et c'est comme ça tous les jours. Et ça me plonge dans un désespoir insondable. Ma carrière de pianiste en temps de guerre débute au café Novotchesne, rue Novolipki, un café fréquenté par des richards du ghetto. Il fallait bien que je trouve de quoi gagner ma vie. Ils sont là avec leurs diamants ou leurs bijoux en or. Ils ne prêtent pas la moindre attention à ce que je joue. Tous les jours, c'est une lutte ouverte entre eux et moi. Plus je tape fort sur mon piano, plus ils lèvent la voix. Alors qu'au tour, cet hiver 1941-1942, autour de cette insolente opulence, s'étend un océan de misère. La faim, le froid, l'absence de chauffage et les poux qui se propagent. Ils se collent même à la croûte du pain que vous venez d'acheter. Ils tombent sur vous quand vous marchez. Ils se glissent dans les pages de votre journal. Et les poux, ils sont porteurs du typhus. Et maintenant, le typhus décime le ghetto. On ne parle que de lui. Il emporte 5000 hommes tous les mois. On ne parvient plus à enterrer les morts. On les abandonne sur le trottoir, enveloppés dans du papier journal. Je les croise tous les soirs en rentrant du café. Et je dois prendre garde de ne pas trébucher dessus. Le vent glacial soulève leur linceul de papier et laisse apparaître un ventre famélique et des grands yeux ouverts sur le néant. Au printemps 1942, un vendredi de fin avril, le ghetto est pris d'une panique sans motif apparent. On sent que quelque chose se prépare, mais on ne sait pas quoi. Une peur soudaine qui, à midi, voit toutes les rues se vider. Quand je vais au café Le Stuka, où je travaille maintenant, je trouve porte close. Ce soir-là, à la maison, on reste debout jusqu'à 11h du soir, sur le qui-vive, habillé. Et puis, constatant que dehors tout est calme, on finit par se mettre au lit. Le lendemain, mon père est le premier sorti. Il revient livide.
Pendant la nuit, les Allemands ont ratissé plusieurs immeubles. On m'a dit qu'ils avaient traîné des dizaines d'hommes dehors. 70 au moins, d'après ce qu'on m'a dit. Et ils les ont fusillés. Dans la rue. Les cadavres sont encore là.
Cet après-midi-là, on voit surgir des affiches. Les Allemands expliquent qu'ils ont été contraints de purger notre quartier d'éléments indésirables. Mais que les magasins et les cafés doivent ouvrir et la vie reprendre son cours. Et de fait, le mois suivant s'écoule tranquillement. Même si à cette époque, la police juive commence à développer une mentalité de gestapiste, hein, comme si c'était devenu chez eux une seconde nature. On les voit parader dans les rues avec leur uniforme, leur matraque en caoutchouc, avec la Gestapo, hein, menant la chasse à l'homme avec la froideur d'un SS. Des juifs, comme nous. J'ai appris bien plus tard qu'un soir, ils ont arrêté 1 millier d'hommes pour les conduire tout droit au camp de Treblinka, pour expérimenter sur eux les nouvelles chambres à gaz qu'ils venaient d'installer. Un soir de juin, je me souviens, il faisait très chaud. On avait fermé les persiennes après souper et on avait laissé les fenêtres ouvertes à l'intérieur. Une voiture de la Gestapo est arrivée dans la rue. Elle s'est mise d'abord à tirer. Ensuite, les Allemands sont descendus et ils se sont précipités dans l'immeuble en face. Nos voisins étaient encore assis autour de la table. On les voyait à travers les persiennes. Ils étaient tétanisés.
Debout ! Debout, j'ai dit !
Ils se sont tous levés, sauf le grand-père qui ne pouvait pas. Ils l'ont soulevé avec son siège. Ils l'ont amené jusqu'au balcon. Et ils l'ont précipité dans la rue, du 3e étage. Et après, ils ont raflé quelques douzaines d'hommes dans l'immeuble. Ils les ont descendus dans la rue. Ils ont démarré leur voiture. Et ils les ont forcés à courir devant eux en leur tirant dessus. Et après, ils sont partis en roulant sur les cadavres. D'après la rumeur, une opération de réinstallation des juifs du ghetto doit débuter cette nuit. Mais le matin, il ne s'est rien passé. Alors les gens reprennent confiance. Mais quand le soir arrive, un vent de panique souffle à nouveau. Et on voit apparaître un peu partout des groupes, chargés de ballots et de grosses malles. Un matin vers 11h, je marche, perdu dans mes pensées. Un ami me prend par le bras.
Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Rentre chez toi immédiatement.
Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a ?
Ils entrent en action dans 1 heure. Regarde !
Et là, il me montre un détachement de soldats en uniforme, mené par un sous-officier allemand. Tous les 10 mètres, l'un d'eux se détache et va se placer en faction au pied du mur qui entoure le ghetto. Peu après, la ville se couvre d'affiches. Elles annoncent la réinstallation. Tous les juifs aptes au travail partent vers l'est. Ils ont le droit de prendre 20 kilos de bagages par tête, leurs bijoux et des provisions pour 2 jours. On dit qu'à l'arrivée, ils seront logés dans des baraquements et affectés aux usines allemandes du coin. L'inconcevable est arrivé. 5000 âmes vont être expulsées de la ville. Ça paraît tellement absurde qu'on ne veut pas y croire. Les premiers jours, l'opération est menée sur le principe de la loterie. Un coup de sifflet devant un immeuble, et tous les habitants doivent descendre et se regrouper dans la cour. On les entasse dans des chariots tirés par des chevaux, des nourrissons, jusqu'aux vieillards. et on les conduit sur l'Umschlagplatte. On les fait monter dans des wagons bondés et ils disparaissent dans l'inconnu. Nocturne, opus 20 de Chopin, dont Céline Lebras et moi-même n'avons pas voulu retirer une seule note, parce qu'il est extrêmement émouvant, puisqu'il est interprété par Vladislav Spielmann lui-même. Jean-Yves Potel, vous l'avez vu jouer, Spielmann ?
Oui, non, mais je l'ai entendu, oui, plusieurs fois, oui.
C'est très émouvant de l'entendre comme ça, d'imaginer ses doigts, et j'invite tout le monde à aller voir sa vidéo sur YouTube interprétant ce nocturne de Chopin. C'est cet homme qui a vécu tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui et surtout ce que je vais vous raconter demain, a donc poursuivi sa carrière après la guerre.
Oui, oui, il est revenu. D'ailleurs, symboliquement, il a commencé quand la radio polonaise a repris à Varsovie après la guerre. Il a joué tout de suite le même morceau de Chopin qu'il jouait au début de la guerre.
Donc celui-là, en vérité.
Oui.
L'histoire du livre de Spielmann, qui m'a servi de base pour écrire ce récit, est intéressante parce que c'est un livre qui sort tout de suite après la guerre et puis qui disparaît.
Oui, enfin, ce sont les mémoires de Spielmann, c'est-à-dire que cette histoire qu'il raconte est une histoire qui est en fait celle de beaucoup de monde, beaucoup de juifs du ghetto de Varsovie. Et après la guerre, il y a eu beaucoup de textes qui sont sortis comme ça, et de témoignages, et celui de Spielmann était très important. D'autant qu'il est devenu un personnage, un grand musicien, très célèbre au niveau, un grand interprète, très célèbre au niveau international et dans le pays, et très aimé. Donc son histoire, disons, symbolise un petit peu le sort des Juifs qui étaient à Varsovie, et qui ont été rassemblés dans des ghettos. C'est-à-dire qu'on oublie souvent de dire que la première chose qu'ont fait les Allemands lorsqu'ils sont arrivés à Varsovie, c'est d'imposer aux Juifs des règles de discrimination très fortes, notamment là, qui se symbolisait également par la portée d'un brassard avec une étoile de David, mais surtout l'interdiction d'avoir de l'argent, l'interdiction d'aller sur les trottoirs, toutes sortes de choses. Et ils ont été tout de suite très discriminés et ils ont été construits comme un groupe à part dans la ville.
On va revenir sur tout ça, Jean Hypothèque. Moi, ce que je croyais avoir compris, c'est que les Soviétiques, qui ensuite deviennent la puissance tutélaire de la Pologne après la guerre, n'ont pas voulu que son récit prospère et que le bouquin, finalement, n'a pas vraiment été distribué et qu'il a fallu attendre le début des années 2000 pour que ce texte ressorte et inspire ensuite Polanski et devienne le film qu'on connaît.
Oui, enfin, bon, l'histoire du texte lui-même, oui, il a été... D'ailleurs, lui-même ne l'a pas dit, il l'a imprimé juste après la guerre et lui-même ne l'a pas distribué vraiment. Il a ressorti après. Il disait lui-même que lorsque on a commencé à le réinterviewer dans les années 80, il disait oui, mais bon, il avait honte pour tout ce qu'il avait fait. Il voulait pas qu'on parle de tout ça. Il y a eu bien sûr une limitation du régime, mais à partir des années 60, si vous voulez, vous avez eu beaucoup de choses qui ont paru. Et on pouvait savoir quand même ce qui s'était passé. Son histoire était connue.
Alors au tout début de l'histoire, si on revient au début, un mot quand même sur les bombardements allemands sur Varsovie qui précèdent la prise de la capitale polonaise par le Reich. Les bombardements ont été terriblement destructeurs.
Oui. Quand on dit que la ville de Varsovie a été rasée en grande partie pendant cette guerre, ce qui est vrai, notamment tout le centre de Varsovie, à peu près 30-35%, peut-être même plus, du bâti a été détruit pendant les bombardements de 39, qui ont été effectivement extrêmement violents. Il faut dire que l'armée allemande est arrivée très vite au niveau de Varsovie, et tandis que ce que s'organisait une résistance qui a duré une 3 semaines à peu près, il y a eu disons que des bombardements sans cesse. Si l'on veut se donner une idée de ce qu'a été l'attaque allemande sur Varsovie, il suffit de regarder ce que nous voyons beaucoup aujourd'hui, par exemple, comment on détruit une ville en Syrie. C'est la même chose. C'est-à-dire que si vous prenez Alep et Varsovie, c'est le même type de stratégie militaire. On avance, on détruit, on tue la population civile et après on occupe. C'est ce qu'ont fait les Allemands.
Ce qui veut dire qu'au fond, le ghetto, lorsqu'il va être instauré, va être installé dans le contexte d'une ville détruite et ravagée.
Oui, bien sûr, mais si vous voulez, dès que la guerre commence, toute la population de Varsovie va connaître une situation très difficile. Bon, il y a bien sûr l'isolement des Juifs dont je viens de parler, mais la partie non-juive va également subir la famine, subir des pressions policières très importantes, et il y aura une répression forte contre elle. Mais donc c'est une ville qui est bien sûr... disons, détruite en partie, dans lequel peu approvisionné, dans lequel l'eau est difficile, on a du mal à se nourrir, etc. Et les gens qui vont être mis dans le ghetto, ça va être encore pire, parce qu'il y aura très peu d'approvisionnement, et tout ce qui se fait comme fabrication, comme, disons, culture, etc., à Varsovie et autour de Varsovie, est pillé par les Allemands. Ils non seulement ils détruisent, mais ils pillent ensuite. Et ils vont faire travailler les ouvriers polonais d'une part, mais aussi et surtout les Juifs dans le ghetto pour l'armée allemande. Ils vont fabriquer des uniformes, ils vont fabriquer des chaussures. Si vous voulez, la Pologne, occupée, va devenir à partir de 39 jusqu'en 44, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'armée rouge va commencer à rentrer dans sur le territoire polonais, ce territoire va devenir le grand arrière de l'armée allemande. Et donc, avec une répression terrible contre les Juifs et la population polonaise, on va utiliser cette arrière pour piller. Ça sera un lieu où on ira se reposer, où l'armée enverra, quand il y aura le front à l'est avec la Russie, des soldats de l'armée allemande viendront prendre leur permission à Varsovie pour se reposer avant de repartir au front. Ça sera ça, la ville de Varsovie pendant la guerre.
Spielmann fait le choix, au tout début, de rester à Varsovie. D'autres Juifs quittent Varsovie, s'enfuient. Est-ce qu'il a fait le bon choix? Qu'est-il advenu de ceux qui sont partis?
Bon choix, je ne sais pas, si vous voulez. En fait, début septembre, la Pologne a été occupée par l'armée allemande et par l'armée soviétique à partir du 17. Et donc, une partie de la population qui était sur du côté allemand a essayé de se réfugier du côté soviétique. Là-bas, ils ont été, pour les soldats, mis dans des camps de prisonniers, et beaucoup ont été ensuite déportés au goulag. Alors, est-ce que c'était... Moi, je ne sais pas si c'était mieux. Il y a d'ailleurs des gens qui ont fait les deux, qui sont partis du côté soviétique, qui sont revenus du côté allemand ensuite, et vice-versa. Donc, je pense que c'est la question n'est pas là. Les gens, on ne peut pas regarder ça en historien, ou même nous-mêmes, on ne peut pas le regarder en sachant ce qui va se passer. Les gens, ça commence. D'ailleurs, on le voit bien dans ce que dit Spielmann, ou dans son livre, au début, ils ne comprennent pas bien ce qui se passe. Au début, ils croient que ça va durer quelques mois. Ils espèrent dans l'aide des alliés, des Français et des Anglais.
Et des Américains. Hein.
Les Américains, beaucoup plus tard. Pour l'instant, ils avaient, les Français et les Anglais avaient déclaré la guerre le 2 et le 3 septembre 1939. Et à l'époque, l'armée française était considérée comme la plus puissante d'Europe. Or, elle n'était pas prête, elle ne pouvait pas intervenir, et nous n'avons rien fait.
Alors, il raconte l'apparition progressive des lois anti-juives, qui commencent par l'interdiction de détenir plus de 2000 zlotys, puis ensuite l'obligation de s'incliner devant les Allemands, et puis l'interdiction de monter dans les trains, puis le port de l'étoile, et qui va aller comme ça crescendo jusqu'à la déportation vers les camps. Les Allemands qui arrivent à Varsovie en 39, ils ont un plan concernant les Juifs. C'est-à-dire, toutes ces mesures sont prévues, elles sont anticipées, le crescendo est prévu.
Écoutez, leur plan, c'est de mettre en avant ce qu'ils appellent la solution finale de la question juive. La solution finale de la question juive, c'est de résoudre ce qu'ils appellent un problème juif, c'est celle qui est trop de Juifs sur la Terre, et notamment dans les zones, ce qu'ils appellent l'espace vital de l'Allemagne. Donc, ils veulent se débarrasser de ces Juifs. Mais en fait, ils ne savent pas trop comment ils vont faire. Au départ, ils ont l'idée de les déplacer, de les déporter, de les envoyer en Russie, de les envoyer à Madagascar, de les envoyer je ne sais où, et de faire des réserves. Et donc, c'est petit à petit qu'ils vont se trouver devant une situation qu'ils n'avaient pas du tout prévue, c'est qu'ils vont avoir, sur les territoires polonais, il y a près de 3 millions de Juifs qui sont là. 3 millions de Juifs, vous vous rendez compte? En Allemagne, il n'y avait pas 3 millions de Juifs. La plupart des Juifs allemands étaient assimilés. Il y avait 1% de la population allemande qui était juive. En Pologne, c'est autour de 7 à 8% pour tout le pays. Et dans les grandes villes, c'est autour de 30% des grandes villes. À Varsovie, c'est 30% de la population est juive. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et donc, quand ils ont commencé à avoir des difficultés sur le front russe, ils ont, à la fin, en 41, l'automne 41, ils ont commencé, et on pense... Il y a beaucoup de discussions chez les historiens, mais on pense que c'est probablement autour d'octobre-novembre 41 qu'ils ont décidé non plus de les déplacer, mais de les tuer, de tuer tout le monde, et de tuer tous les Juifs qu'ils pouvaient trouver partout où ils allaient. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils organisent des camps d'extermination qui ne sont pas des camps de concentration, qui sont des sortes d'abattoirs, des centres de mise à mort, où on emmène par train des dizaines de milliers de personnes et qui sont assassinés dans les deux heures qui suivent. Il y aura 800 000 personnes assassinées à Treblinka en quelques mois. Et c'est ce qu'ils ont fait à partir de 1942.
Monsieur Potel, les gens, évidemment, ont pu être assez surpris par l'existence de cafés dans le ghetto de Varsovie, de cafés où Spielmann jouait de la musique. Et il raconte d'ailleurs, dans une certaine indifférence, que les gens festoyaient autour de lui et que personne ne l'écoutait en vérité.
Sur cette question, je crois qu'il faut voir les choses avec un peu de réalisme. Il y avait dans le ghetto de Varsovie à peu près 400-450 000 personnes. Ces 400-450 000 personnes qui sont restées au moins là pendant presque 2 ans, parmi eux, il y avait beaucoup d'artistes. Il y avait, on estime qu'il y avait à peu près 135 acteurs, 52 chanteurs, 87 écrivains, 25 peintres, 2 musiciens. Il y avait beaucoup de monde. Et ces gens ont évidemment continué à travailler. C'était une forme de travail, mais aussi la société se reconstitue. Il y avait des gens qui faisaient du commerce et ils ont commencé à faire cela. Et donc, il y a eu une série de cafés qui sont constitués. Ces cafés, celui le premier dans lequel il était notamment et dont il a parlé, était un café effectivement où il y avait essentiellement les gros bonnets du ghetto. Mais après, il y a eu un café qui était plus intéressant, qui était ce café Stuka, qui veut dire l'art, qui était un café qui était à côté d'une porte du ghetto, et où il y a eu beaucoup d'artistes importants qui venaient chanter, et où la bourgeoisie ou la juive ou la petite bourgeoisie juive qui était dans le ghetto venait boire un verre d'eau ou boire un faux thé. et écoutaient de la musique. Et dans ce contexte-là, ces lieux sont devenus aussi des lieux de résistance, des lieux de critique. Par exemple, Spielmann, avec un autre, un poète dont j'ai édité des poèmes, qui s'appelle Vladislav Schlengel, vraiment faisait de véritables sortes de cabarets anti-nazis, si vous voulez, qui se moquaient de tout, qui étaient là, et où autour de chansons, autour de poèmes, avaient un regard noir et humoristique sur ce qui leur arrivait. Il ne faut pas oublier que dans ce ghetto, il fallait vivre. Et parmi les façons de vivre, il y avait aussi l'art. Et donc les artistes continuaient. Et d'ailleurs, tout a été évidemment liquidé en 42, lorsque le ghetto a été liquidé. Il y a eu des grandes déportations. Mais, et c'est là-dessus que je voudrais insister, pour beaucoup d'artistes qui ont été dans ce cas-là, ce n'était pas simplement une façon de gagner de l'argent ou de travailler, c'était aussi une façon de résister. C'était une façon de ne pas accepter leur situation, de la regarder de façon critique et de mobiliser les gens. Et je crois qu'il faut voir ça sous cet angle-là plutôt que sous l'angle c'était des gens qui se faisaient de l'argent en faisant raquer les gens qui avaient beaucoup d'argent. Non, c'était une forme de résistance souvent dans ces cafés. Pas dans tous, il y avait aussi des crapules, il y avait aussi des gens qui faisaient un peu n'importe quoi. Mais la vie dans le ghetto est une vie extrêmement diversifiée.
Et d'ailleurs, c'est les solidarités qu'il va nouer dans ses cafés qui vont lui permettre ensuite de survivre jusqu'à la fin de la guerre. Mais j'anticipe un peu l'épisode de demain. Un mot sur le typhus, parce que à côté de ces cafés, on est face, il le dit lui, c'est son expression, un océan de misère. Le typhus, c'est intéressant parce que ça a été le prétexte du ghetto, c'est-à-dire on met des barrières au départ parce que y a le typhus chez vous, et puis après c'est le piège du ghetto. Le typhus va décimer le ghetto de Varsovie.
Oui, même pas que le ghetto de Varsovie. J'en profite pour signaler qu'il n'y avait pas qu'un ghetto en Pologne, il y en avait 500 à 600. Et on estime à peu près aujourd'hui que sur les 2 900 000, 3 millions de juifs polonais qui ont été assassinés par les nazis pendant la guerre, il y en a à peu près 500 000 qui sont morts dans les ghettos. Et dans les ghettos, ils sont morts de maladies, le typhus en grande partie, ils ont été fusillés, ils ont été torturés, ils ont mort de faim, parce que la faim aussi est quelque chose de très 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 dur, très fort. On le voit d'ailleurs très bien dans le film de Polanski. Et donc il y avait à peu près 500 000, si vous voulez avoir une proportion, 500 000 juifs sont morts dans les ghettos, 500 000 ont été fusillés devant des fosses quand on a liquidé ces ghettos, et à peu près 1,8 million, 1,9 million sont morts dans des chambres à gaz à Treblinka, Sobibor, Belzec et quelques autres lieux de ce type où ils étaient des centres de mise à mort et non des camps de concentration. Ce n'est qu'une minorité de juifs polonais qui sont morts à Auschwitz, 300 000, mais c'est beaucoup, mais c'est moins que... Il y avait beaucoup plus de juifs hongrois et autres. Alors le typhus, il était lié aussi à la misère, à l'état dans lequel vivaient ces gens, qui ne mangeaient pas, ou qui mangeaient mal, qui ne pouvaient pas s'approvisionner, qui ne pouvaient pas se nettoyer. Et tout ça faisait que, bon, évidemment, c'était un lieu sale, le ghetto, et c'était un lieu où la maladie, comme il le dit dans son livre et que vous l'avez cité tout à l'heure, était absolument courait et tuait beaucoup. Généralement, on mourait du typhus, mais pas toujours. Quand on était jeune, on pouvait s'en sortir.
Alors, à la fin de cet épisode, on commence à évoquer un mot, le mot de réinstallation, qui est en fait l'organisation de la destruction des Juifs, leur assassinat dans des camps. Oui. Qui sait ? Parce que lui dit qu'il pressent, il dit aussi que des amis de son père et que son père lui-même ne veut pas y croire. Et qui sait à ce moment-là que lorsqu'on va monter dans ce train, et ça sera évidemment l'épisode de demain, le moment où Spielmann voit toute sa famille partir et où lui reste par hasard, qui sait ce qui se passe après ?
Sur Uschmatzplatz, c'est-à-dire là où ils étaient rassemblés, en juillet, je pense que beaucoup de gens sentaient qu'ils allaient probablement pas dans un camp de travail, etc. Il y avait une minorité qui savait très bien ce qu'allait se passer, puisqu'il y a eu deux rescapés de Treblinka et de Chełmno, qui était un autre camp du même genre, qui sont arrivés à Varsovie au début de 1942 et qui ont raconté ce qui se passait. Et plus exactement, on le savait, on avait des informations, mais on n'y croyait pas. C'est ça la question fondamentale, on n'y croyait pas. On y croyait à peine, c'était tellement inconcevable. Imaginez-vous que vous avez une foule comme ça, une ville dans laquelle vous avez 500, 400 000 personnes, l'idée que tous ces gens vont être tués d'un seul coup par balle ou par gaz, on n'imaginait pas que ce soit possible. Et alors, bon, bien sûr, à la fin, on savait. Et Il faut dire que ces gens qui montaient dans les trains qu'on emmenait étaient des gens qui étaient totalement épuisés, qui étaient après deux ans et demi, on le voit dans les livres, dans les témoignages, dans les films, qui étaient incapables souvent de marcher, qui avaient plus de force et qui se retrouvaient là, emportés avec leur famille. Donc ils n'avaient plus qu'une seule solidarité possible. C'était celle avec leur famille, avec leurs proches. Beaucoup ne voulaient pas partir, parce qu'ils voulaient rester avec leur mère, leur enfant, leur frère. Bon, et c'était comme ça. Et on les a emmenés, on les mettait dans les chambres à gaz avec elle.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.